Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 15 mars et on va avoir un culte ce matin. Comme chaque dimanche, nous voulons rendre un culte à Dieu. Michel et moi et Edouard qui est là, eh bien nous avons ouvert le temple pour accueillir d'éventuels visiteurs de passage et nous vous invitons à vous joindre à nous pour ce culte où nous voulons rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous un peu en confinement. Je vous lis les informations que j'ai reçues et de notre gouvernement au travers du CNEF. À ce stade de la situation épidémique du coronavirus, il nous semble important de rappeler que la plupart des lieux de culte protestant évangélique sont classés comme établissements recevant du public. Donc les célébrations, les réunions cultuelles et culturelles sont considérées comme des rassemblements collectifs. Et de ce fait, ces rassemblements sont concernés par les directives données par le ministère de la Santé ou des préfectures. Aujourd'hui, le gouvernement n'a qu'une solution par rapport à cette épidémie, c'est le confinement et les distances à respecter pour ne pas transmettre ce virus. Et nous sommes tout à fait d'accord pour les respecter. C'est pourquoi nous n'aurons pas de cérémonie de culte, mais nous vous encourageons à suivre ce culte avec nous. Je lis dans le psaume 31, « Éternel, en toi je me réfugie, et que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice, et tends vers moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer, sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc et ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous croyons que dans ces temps difficiles, comme dans les temps faciles, tu es notre protection. Et nous voulons t'invoquer, Seigneur, ce matin, pour que tu puisses entendre nos requêtes, mais nous voulons aussi nous réjouir, parce que nous savons qu'en toi, nous sommes gardés et nous sommes protégés de tout mal, Seigneur, et que ta volonté s'accomplisse. Nous voulons nous confier en toi ce matin et te rendre toute la gloire, toute la louange qui t'est due, Seigneur. Que ton saint nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Voilà, on va écouter la prédication qui va être assurée par Michel dans le cadre du mois famille. Elle vous indiquera tout à l'heure que par rapport à cette prédication, vous aurez un questionnaire qui vous sera envoyé par Internet auquel vous pouvez répondre, en tout cas avoir cette étude sur ce message, puisque les groupes de maison n'auront pas lieu. Et donc ça vous permettra d'être tous ensemble autour de ce mois famille où le Seigneur nous parle au travers du personnage de David en ce moment, et nous voulons être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire ce matin. Voilà, c'est Michel qui va apporter le message maintenant.
Eh bien, bonjour à tous. On va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière en église. Ça fait tout drôle d'être uniquement par audio. Donc, petit rappel, dimanche dernier, nous avions terminé l'étude sur 2 Samuel, chapitre 3, versets 20-21. Un petit rappel donc des faits. Abner, chef militaire de l'armée de Saül, avait nommé Ishbosheth, fils de Saül, comme roi sur 11 tribus d'Israël, et David régnait, lui, à Hébron, comme roi sur la seule tribu de Juda. Abner, au fil des mois, a cherché à éviter une guerre fratricide. On le sent dans les textes précédents, on l'a vu les autres dimanches. Une guerre fratricide entre les 11 tribus d'Israël et la tribu de Juda. Ils savaient que David devait devenir roi de tout Israël, on l'a vu dans le texte, mais sa loyauté à la maison de Saül l'empêchait de reconnaître David. Il a cherché à régler le problème par des moyens humains, rationnels, logiques, mais ça n'a fait qu'empirer la situation et le mettre lui-même dans une situation grave, puisqu'il s'est défendu dans la bataille quand le frère de Joab l'a attaqué et poursuivi, et il a tué le frère de Joab en pleine légitime défense. À la suite d'une réprimande de son roi Ishbosheth, Abner va se tourner vers David. C'est ce qu'on a vu la semaine d'avant. Il va même le reconnaître comme son roi, et donc abandonner Ishbosheth, fils de Saül. Et il va proposer une alliance à David, et une alliance aussi entre David et tous les anciens d'Israël. David, voyant qu'Abner respecte ses conditions, et ça c'est important, parce que David avait posé quand même une condition importante au retour d'Abner, comme il voit qu'il respecte ses conditions, David accepte l'alliance et il le reçoit avec une vingtaine de ses hommes à Hébron. Un banquet même va sceller cette alliance. Abner part ensuite pour rassembler Israël sous l'autorité de David. Alors on avait noté dans ce texte, d'une part, la sincérité d'Abner. Il a accepté l'humiliation de ramener à David sa femme Michal, qui était fille de Saül. Et pour lui, c'était une grande humiliation, puisque les gens l'ont vu accompagner le convoi et l'ont vu prendre une position très claire pour David. Ça ressemble fort au principe de la conversion, qui nous rappelle celle du fils prodigue. Le fils prodigue revient vers son père. Et encore plus peut-être même celle de l'apôtre Paul, le persécuteur qui devient disciple. Parce que quelque part, Abner a été le persécuteur de David sous le règne de Saül. Le persécuteur devient disciple. Abner se soumet à la royauté de David. On avait noté aussi l'attitude de David, qui ne se contente pas de dire « c'est bien, merci beaucoup », mais qui le reçoit à sa table pour un banquet. Ça fait penser évidemment au banquet que le père prépare pour le fils prodigue. Repas d'alliance où on partage le pain, on est des compagnons qui partagent le pain, le vin, le sel, qui sont des symboles d'alliance. On ne partage pas le pain, le vin, le sel avec n'importe qui à cette époque. David va se montrer comme un homme selon le cœur de Dieu, en cela qu'il pardonne à celui qui se repent. Et là, on va voir le contraste très fort entre Joab et David. Il pardonne à celui qui se repent, à celui qui revient vers lui et à celui qui fait demi-tour. Et il va jusqu'à l'accueillir à sa table, ce qui était un symbole très, très fort à l'époque. Et il manifeste, comme Jésus va le faire 1000 ans plus tard, la grâce, le pardon et l'amour. Jésus ne se contente pas de nous accueillir à sa table, il fait une réelle alliance avec nous lorsqu'on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur. Et c'est exactement le comportement de David envers Abner. C'est remarquable quand on pense que pendant des années, Abner l'a poursuivi avec Saül, de montagne en montagne, de région en région, et ça a été très très dur pour David. Mais c'est la fin de la guerre et il laisse Abner s'en aller en paix, ce qui est répété d'ailleurs plusieurs fois. Alors, on va relire les versets 22 à 27. Donc, on est au chapitre 3. On va terminer peut-être à 21. David donna un banquet pour Abner et pour les hommes qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je vais partir pour rassembler tout Israël sous ton autorité, ô roi mon Seigneur. » Là, on voit les signes d'allégeance sont clairs. « Ils concluront une alliance avec toi et tu régneras sur tout ce que tu désires. » David laissa partir Abner qui s'en alla en paix. Donc la promesse, il est bien prêt à la tenir. Préparer une alliance entre toutes les tribus pour que David soit enfin roi de tout Israël et pas seulement d'une seule tribu. Ensuite, les hommes de David et Joab, donc Joab était à leur tête, revenaient d'une expédition militaire, bien sûr, ramenant un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait laissé partir et il s'en était allé en paix. Lorsque arrivèrent Joab et toute l'armée qui était avec lui, on dit à Joab, on ne sait pas qui est on, « Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qu'il l'a laissé partir, et il s'en est allé en paix. » Joab se rendit chez le roi et dit « Mais qu'as-tu fait? Abner est venu te voir, pourquoi l'as-tu laissé partir et s'en aller librement ?»« Tu connais Abner, fils de Ner, c'est pour te duper qu'il est venu, pour connaître tes plans de campagne, pour savoir tout ce que tu fais. » Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira à l'insu de David. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab l'attira à l'écart, à l'intérieur de la porte de la ville, pour lui parler tranquillement. Et là, il le tua d'un coup au ventre pour venger le sang d'Azaël, son frère. Joab, il nous apparaît là, dans toute sa splendeur, Joab est toujours le même, chef militaire aguerri, chef militaire de David. Il est fort de tous ses succès militaires et il continue, comme autrefois quand ils étaient à Tsiklag, à faire des razzias chez les ennemis d'Israël et à ramener un énorme butin. C'est sûr que ça le rendait très populaire en Juda, évidemment. Alors, il y a un petit problème, c'est que celui qui rapporte les faits à Abner, à Joab, il omet de dire les bonnes choses. Il omet de dire que Abner a ramené, c'est une forme de demande de pardon, a ramené la femme de David, celle que Saül avait reprise et donnée à quelqu'un d'autre. C'était la fille de Saül. On ne parle pas de ça. Il ne parle pas de son revirement, de son allégeance, des promesses qu'il a tenues, de cette réparation justement avec la fille de Saül. Ce qui fait que Joab, il lui manque toute une partie de l'information. Et il reste évidemment sur ce qu'il croit, ce qu'il pense, sans connaître même tous les faits. Joab, du coup, voit tout en noir. Il fait des reproches à David, et c'est un peu curieux. Il semble pas avoir énormément de respect pour le roi. C'est vrai que c'est le neveu de David, il se sent libre de lui parler, mais quand même, à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup plus de respect pour les autorités. Et il va lui faire toutes sortes de reproches, et naturellement, il nous fait penser au fils aîné, au frère aîné du fils prodigue, qui va rouspéter contre le papa parce qu'il a pardonné, parce qu'il a accueilli. Et il ne se rend pas compte, le frère aîné, que son petit frère est revenu dans la repentance. Il est revenu en demandant pardon. Mais ça, il ne veut pas le savoir. Et du coup, Joab, de la même façon, considère qu'Abner est venu en espion. C'est la seule possibilité. Il ne peut pas imaginer une seconde qu'Abner a compris, et d'une part la parole des prophètes qui disait que David devait être roi, et d'autre part qu'il luttait contre Dieu en luttant contre David. Alors, il y a un fait curieux dans ce texte aussi. Donc, le fait curieux, c'est que Abner n'a aucune information positive. Le deuxième, c'est que la Bible ne rapporte pas les réponses de David. Si on regarde bien le texte, on ne voit aucune réponse. Qu'as-tu fait, etc. Tu connais Abner. Mais on ne dit pas ce que David a répondu. Alors, il y a deux solutions possibles. Ou David a répondu, mais Joab n'en a absolument rien à faire. Ou David n'a pas répondu. On ne sait pas. Mais c'est important. Parce que ça signifie qu'il ne cherchait pas à avoir une réponse. Il est furieux et en fait, son oreille est tendue uniquement sur sa colère, la vengeance. Un homme a tué son frère, il ne réfléchit même pas dans quelles circonstances. Il ne pense qu'à sa vengeance. Et ça l'aveugle complètement sur tout le reste. Et il y a aussi dans ce texte une insistance, je crois 4 fois, sur « laissa partir, s'en alla en paix ». David l'avait laissé partir, il s'en était allé en paix. Le roi qui l'a laissé partir et il s'en est allé en paix. Et pourquoi l'as-tu laissé partir et s'en aller librement ? Cette insistance, est tout à l'honneur de David. David a pardonné, David a effacé, et Abner a pu partir en paix, libéré de sa faute, libéré de ce qu'il devait à David. Il est parti en paix, il est parti libre. Et c'est une très très belle image du salut qu'on a en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas prisonniers. Jésus ne nous a pas dit, c'est bien, je te reçois, mais attention maintenant, tu es prisonnier et tu ne vas plus bouger de là. Dieu nous redonne liberté et paix. Il a payé notre dette à la croix. Il a effacé nos fautes et il a fait une alliance avec nous. Et l'image, la réaction de David envers Abner est une très très belle image de ce que Jésus fait avec nous. Même si on a combattu le Seigneur, même si on s'est comporté de façon extrêmement hostile pendant des années, quand on revient vers lui, qu'on fait réparation, si réparation il y a à faire, qu'on se repent, eh bien, il ne se contente pas de nous accueillir, mais il nous rend libres et il nous donne sa paix. Et cette insistance sur la paix et la liberté est très frappante, parce que je crois que c'est aussi ça qui va énormément choquer Joab. Joab ne comprend pas la repentance et le pardon. Il ne comprend pas la grâce. Et on va dire, oui, c'était l'ancienne alliance. Mais dans Ézéchiel 33, qui était donc bien avant la venue de Jésus, je crois 600 ou 700 ans avant, Ézéchiel 33, verset 14, il est écrit « Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et agit selon l'équité et la justice, si le méchant rend le gage, restitue l'objet de ses spoliations, suit les prescriptions qui donnent la vie, sans agir injustement, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra contre lui d'aucun des péchés qu'il a commis, il agit selon l'équité et la justice, il vivra. » Et ce texte, donc d'Ézéchiel 33, verset 14, décrit très bien ce qui s'est passé avec Abner. Il est revenu de sa mauvaise voie et donc il a été pardonné. David était dans la bonne ligne de la parole de Dieu, même sous l'ancienne alliance. Et Joab ne s'arrête pas là. Joab est furieux, donc il va rouspéter sur David, mais sa vengeance le rend aveugle et sourd. Et il va, à l'insu de David, faire revenir Abner. Et ça, le mot est important, à l'insu de David. Il ne dit rien, il ne rend aucun compte. Et c'est là qu'on commence à voir à quel point Joab, et on va le voir dans la suite de l'histoire, Joab était incontrôlable. C'était un grand homme militaire, c'était un grand héros de guerre, mais totalement incontrôlable. Si on n'était pas d'accord avec lui, il faisait ce qu'il voulait par derrière. Et il va faire revenir Abner avec traîtrise et hypocrisie. Il fait semblant de vouloir lui parler de un à un, comme dit la Bible, tranquillement. Il fait semblant d'avoir un entretien privé avec lui, à l'écart. Et Abner, qui vient de vivre un pardon extraordinaire, qui vient de faire une alliance et qui tient ses promesses, il est parti pour réconcilier Israël avec David. Il ne pense pas une seconde qu'il va y avoir traîtrise. L'alliance était tellement belle, elle était officielle, et il ne peut pas s'imaginer que Joab va réagir de cette manière. Joab, en fait, il va prendre la justice en main sans s'informer. Et ça, c'est un danger pour nous tous. Sans s'informer, on peut aussi faire beaucoup de bêtises. Joab prend sa justice en main sans s'informer. Comment se fait-il qu'il n'a pas cherché à savoir pourquoi Hazaël, son frère, avait été tué? Il ne s'informe pas, ou alors il le sait, il n'en a rien à faire. Mais c'est quand même curieux, parce qu'on était en guerre, Abner était en légitime défense, il a essayé de repousser Hazaël deux fois en lui disant « Mais écoute, je ne pourrais pas apparaître devant ton frère si je te tue, mais laisse-moi tranquille ». Donc légitime défense, il a prévenu, il a tout fait pour éviter de se défendre et de tuer le frère de Joab. Mais ça, il semble que Joab n'en tient absolument pas compte. Est-ce qu'il ne veut pas le savoir ou est-ce qu'il n'en a rien à faire? On ne sait pas. Mais il est profondément outré du pardon et de la grâce que David a accordé. Parce que finalement, Hazaël était aussi le neveu de David. Comment David peut pardonner ça? Joab ne cherche absolument pas la paix et son problème aussi, c'est qu'il se soucie plus de sa vengeance que du bien et de l'unité d'Israël. Et dans ce monde où on vit aujourd'hui, où de plus en plus on se tourne vers l'individualisme et le chacun pour soi, c'est un petit rappel. On peut faire des grosses bêtises si on ne se soucie pas du bien commun, de l'unité, d'un pays, d'un peuple, d'une association, d'une église, d'une famille. Il se soucie plus de sa vengeance personnelle. Et il ne se soucie même pas de la promesse que Dieu a faite à David. Et ça, c'est ennuyeux, puisque Dieu avait promis à David qu'il serait roi de tout Israël. Et Abner était sur le point de le réaliser. Joab risque de tout casser de cette unité prévue, prophétisée. Il risque de tout casser pour une vengeance en plus qui n'est pas légale. Il risque de tout casser pour David, pour la tribu de Juda et pour tout Israël. Il risque de casser le plan de Dieu. Et donc ça va loin pour une vengeance personnelle qui n'est pas légale. Il y avait la possibilité de venger le sang, d'ailleurs ça s'appelait le vengeur de sang dans l'ancienne alliance. Quand le crime avait été commis, que c'était un crime odieux, qui n'avait aucune justification, pas de légitime défense, etc. Mais on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un crime de guerre et en légitime défense. Donc la loi ne permettait pas d'assassiner Abner, en aucun cas. En plus, à Hébron, on était dans une ville de refuge. Et dans les villes de refuge, justement, ce genre de meurtre n'entrait pas en ligne de compte. Les villes de refuge étaient faites pour les meurtriers qui avaient tué sans le vouloir, mais pas dans un contexte de guerre. Donc là, il n'y avait aucune justification. Que peut faire David face à ce désastre? Parce que David, jusque-là, il n'est pas au courant. Alors, au verset 28 et verset suivant, on va voir comment David réagit. Parce qu'on peut se poser la question, comment il va arranger les choses? Là, il risque de perdre sa couronne, il risque de perdre tout Israël, les prophéties sur sa royauté risquent de tomber à l'eau. Enfin, tout peut être cassé uniquement par la vengeance de Joab. Comment David peut-il s'en sortir? Il n'a qu'une tribu avec lui. Comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Est-ce que les autres tribus vont venir l'assassiner? Est-ce que ça devient très très grave? Une tribu contre 11, c'est pas tellement faisable. Quand David l'a pris, donc verset 28, chapitre 3, verset 28. Quand David l'a pris par la suite, il dit « Je suis pour toujours innocent devant le Seigneur du sang d'Abner, fils de Ner, et mon règne l'est aussi. » Il n'oublie pas qu'il n'est pas tout seul. Qu'il retombe sur la tête de Joab et sur toute sa famille, qu'il y ait toujours, et là c'est une série de malédictions qui sont un peu classiques à l'époque, qu'il y ait toujours dans la maison de Joab quelqu'un qui soit atteint d'un écoulement génital, de la lèpre, ou qui manie le fuseau, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Donc c'est une série de malédictions qui se disaient dans des cas semblables. Joab et Abishai, son frère, avaient tué Abner parce qu'il avait mis à mort Azaël, leur frère, dans la bataille de Gabaon. C'est intéressant que ce verset se positionne là pour rappeler qu'il s'agissait d'une pure vengeance et rien d'autre. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, mettez un sac pour pagne, lamentez-vous sur Abner. » Puis le roi David se mit en marche derrière la civière. On ensevelit Abner à Hébron. Le roi se mit à sangloter sur le tombeau d'Abner et tout le peuple pleura. Le roi entonna une complainte sur Abner et dit « Abner devait-il mourir comme meurt un fou? Tes mains n'étaient pas liées, ni tes pieds engagés dans des entraves de bronze. Comme on tombe devant des injustes, ainsi tu es tombé. » Alors tout le peuple, et là on peut remarquer à quel point on parle de tout le peuple. Donc il s'agit aussi des anciens d'Israël. « Alors tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. » Tout le peuple pressait David de manger pendant qu'il faisait encore jour, mais David fit ce serment, « Que Dieu me fasse ceci et qu'il y ajoute cela si je goûte du pain ou quoi que ce soit d'autre avant le coucher du soleil. » Cela fut remarqué et plu à tout le peuple. Tout ce que le roi faisait plaisait à tout le peuple. Tout le peuple, tout Israël, sut ainsi en ce jour-là, et c'était le but, hein, que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été mis à mort. Et quand ce jour, le roi dit aux gens de sa cour, « Ne savez-vous pas qu'en ce jour, un prince, un grand prince, est tombé en Israël? Aujourd'hui, je suis délicat. D'autres versions disent je suis faible. Je crois que c'est plus facile à comprendre. J'ai reçu l'onction royale et ces hommes, les fils de Tseruya, c'est-à-dire c'est sa sœur, sont trop durs pour moi. Que le Seigneur paie de retour celui qui fait le mal selon le mal. Alors David, on ne dit pas forcément sa réaction immédiate quand il a appris la mort d'Abner, mais par la suite, la première chose qu'il va faire, c'est de se désolidariser de son chef militaire, de son neveu. Et lui, il pense pas seulement à lui personnellement en tant que roi, à son innocence, mais il pense aussi à son règne. Il ne veut pas que son règne soit marqué par de la traîtrise. Lui, il est resté fidèle à l'alliance. Il veut vraiment montrer qu'il n'a rien à voir avec ce meurtre et qu'il reste fidèle à son alliance. Alors, il prononce, on a dit tout à l'heure, 5 malédictions sur Joab, sur sa descendance, donc, et mort violente, impureté rituelle, pauvreté, famine. Ce sont des malédictions parce qu'il y a eu un meurtre par traîtrise. Et ça, évidemment, ce sont des malédictions assez courantes à l'époque. Le verset 30 précise bien les choses, on l'a dit tout à l'heure, et il confirme ce qu'on dit depuis le début. Abner était sincère, mais Joab a trahi l'alliance, a trahi donc au niveau royal, il a trahi au niveau humain, et il accuse Abner de ne pas être sincère, alors que c'est lui qui va être le traître. Alors David, ensuite, eh bien, il va agir comme on agirait pour un frère. Et là encore, c'est une très bonne image de Jésus qui nous accueille. Une fois qu'il a fait alliance avec nous, il se comporte comme si on était ses frères, sa famille. Et il va porter le deuil. Alors, les 3 rites traditionnels de l'époque, c'est de déchirer ses vêtements, se revêtir d'un sac, éventuellement aussi de cendres, et de se lamenter. Il y avait aussi des pleureuses, etc. Là, on n'en parle pas, mais c'était les rites traditionnels quand quelqu'un qu'on aimait mourait. Et ça va souligner à la fois le chagrin de David au niveau personnel, mais aussi le chagrin devant la perte d'un héros d'Israël. David n'a pas oublié qui était Abner, un excellent soldat, un héros militaire. Et il va prononcer une complainte. Alors on sait que David est un très grand poète, musicien, on a beaucoup de psaumes pour nous le rapporter. Et il va prononcer une très belle complainte. Le roi se mit à sangloter et le peuple pleure avec lui. Il ne faut pas oublier qu'on est au Moyen-Orient et que les hommes ont le droit de pleurer, ce qui est beaucoup plus difficile dans nos civilisations du Nord. Mais tout le peuple pleure avec David, et David dit « Abner devait-il mourir comme meurt un fou ?» Ses mains n'étaient pas liées, ni ses pieds engagés dans des entraves, c'est-à-dire il n'avait pas été fait prisonnier, il n'avait pas été arrêté de façon juste. Il est tombé comme quelqu'un d'injuste, comme un voleur qu'on aurait arrêté et qu'on aurait ligoté. Et ça, c'est une honte parce que Abner était un grand homme, un grand héros. Il ne faut pas oublier que David, lui, a toujours à cœur l'intérêt de l'ensemble du peuple d'Israël. Et je crois que Joab ne voyait que sa tribu. Sa famille, sa tribu, c'est le tonton qui est le roi. Et il ne voyait que cet intérêt-là. David, lui, était roi de tout Israël, même s'il n'était pas encore, mais il était dans son cœur, et il aimait l'ensemble de son peuple, et Abner faisait partie de ce peuple, était de la tribu de Benjamin, comme Saül, Abner était un oncle de Saül, et il voyait l'intérêt de l'ensemble du peuple, et il savait qu'Abner avait vaillamment défendu les tribus d'Israël contre ses ennemis, contre les Philistins en particulier. Donc, il pense à qui était Abner, il ne pense pas à autre chose, tandis que Joab lui pense à sa vengeance, tout le temps sa vengeance. Et le peuple, évidemment, est d'accord avec David parce qu'il se rappelle qui a été Abner. Combien de fois il a repoussé les Philistins, combien de fois il a repoussé les Amalécites ou les gens qui s'attaquaient aux différentes tribus installées en Canaan. Donc le peuple, évidemment, pleure très sincèrement, et David aussi. D'autant plus que David venait de faire alliance avec lui. David va donc prononcer cette complainte. En plus, ensuite, il pleure avec le peuple, il jeûne jusqu'au soir. Et il va faire quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, c'est-à-dire qu'il va marcher derrière la civière qui porte le corps d'Abner. Normalement, un roi ne faisait pas ça. Mais il veut vraiment marquer qu'il est sincèrement écœuré par ce qui s'est passé. C'est très important parce que le peuple comprend le message. Et c'est là qu'on voit cette répétition que j'ai marquée tout à l'heure dans la lecture. Tout le peuple pleure, tout le peuple presse David de manger, tout ce qu'il faisait a plu à tout le peuple, etc. Par son attitude, David a réussi à faire comprendre au peuple qu'il était innocent. Et ça, c'est très très important, parce qu'il n'aurait jamais pu devenir le roi d'Israël s'il n'avait pas fait ça. David fait savoir effectivement que ce n'est pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été mis à mort. Ça, c'était capital, parce que c'est sûr que ce que le peuple... Ça, Joab n'y a pas pensé en tuant Abner. Il n'a pas réalisé que tout le peuple d'Israël va penser, eh ben voilà, David a trahi, il a fait semblant de faire une alliance, et après il a fait tuer Abner par son général. Donc... Ça, c'était le risque et David en était bien, bien conscient. Il veut que le peuple entier voit son cœur face à l'injustice et à la trahison. Et il ne s'est pas contenté de le dire. On voit qu'il a fait plusieurs choses, les rites traditionnels du deuil et la complainte. Il pleure avec le peuple, il jeûne et le plus fort, le signal le plus fort, il marche derrière la civière du mort. C'est très, très important et le peuple a compris. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on peut être accusé à tort et c'est très difficile avec des paroles de se défendre. Et ça peut arriver dans le travail, ça peut arriver dans toutes sortes de circonstances. Et ça arrive même à des enfants, à l'école. On a tous connu des situations d'injustice. Et c'est pas facile de se défendre avec des paroles. On n'est pas toujours crédible. Par contre, je trouve que David a trouvé... Comment répondre aux accusations possibles par son comportement. Il a laissé voir son cœur dans ses attitudes, dans son comportement, dans les jours qui ont suivi, parce que les enterrements, ce n'était pas comme chez nous, 2 heures ou 2 heures et demie, hein, c'était sur plusieurs jours. Et par son attitude pendant ces journées-là, il a montré qu'il était sincère et qu'il était totalement innocent. Son attitude. Et je crois que c'est aussi un message pour nous face à l'injustice ou à la trahison. Les paroles sont faibles, mais notre attitude parle, notre comportement parle. Et c'est important en tant que chrétien aussi, quand on est accusé à tort, c'est notre comportement qui parlera plus fort que nos paroles. Le message passe d'autant mieux qu'il est totalement vrai et totalement sincère. David n'est absolument pas responsable de l'assassinat d'Abner et... La clé, évidemment, de son attitude se trouve au verset 39. Alors, c'est un verset un petit peu délicat, lui aussi, parce qu'on n'est pas très sûr de la traduction. La NBS dit « je suis délicat », on peut dire « je suis faible ». J'ai reçu l'onction royale et ces hommes, les fils de Tseruya, donc sa sœur, sont trop durs pour moi. Mais c'est, même si on saisit pas tout à fait à quel point, dans quel domaine il veut dire « je suis faible », mais... On peut réfléchir sur ce verset. Pourquoi David ne fait pas tuer Joab? Il aurait pu. Joab avait agi par pure traîtrise, en ne considérant absolument pas l'intérêt national, uniquement son intérêt personnel, considérant pas non plus l'intérêt du roi, ni des autres tribus d'Israël, qui venaient de perdre un chef militaire extraordinaire. Pourquoi David dit « je suis faible ». Il est roi. Il est roi sur Hébron. Pourquoi il va dire « je suis faible » ? Eh bien, David, il est très, très intelligent et il comprend bien les choses. Il sait qu'il n'a pas encore le pouvoir nécessaire pour renvoyer Abner, pour renvoyer Joab. Il sent qu'il n'a pas l'assise au niveau national pour faire ce geste et surtout pas au niveau de la tribu de Juda. Il a beau être roi de Juda, il n'a pas encore cette assise. Et c'est pour ça qu'il dit, alors l'NBS dit délicat, je pense, les vieilles traductions disent je suis faible, face à la popularité de Joab, face à ses grands succès militaires, à la protection extraordinaire qu'il apportait à la tribu de Juda, entre autres, il était un peu trop faible. Il n'avait pas la capacité politique de dire maintenant on élimine Joab, ou on le met de côté, ou on le destitue, ou on le tue. Enfin, il aurait pu légalement prendre des dispositions, surtout à cause de sa traîtrise. Pas oublier que c'est une traîtrise entre enfants du peuple d'Israël. Il n'a pas tué un ennemi païen, il a tué un frère. C'est quand même grave. Il avait donc la possibilité, normalement, de prendre une décision de justice, une décision légale par rapport à Joab. Il ne l'a pas fait, parce qu'il a été conscient que son règne n'était pas encore suffisamment affermi, que Israël ne comprendrait pas nécessairement ce qu'il fait, que la tribu de Juda encore moins, et tant que tout Israël ne l'avait pas encore reconnu officiellement comme roi, il préfère s'en remettre au Seigneur et dit que le Seigneur paie de retour celui qui a fait le mal selon son mal, c'est-à-dire qu'il rende selon le mal qu'il a fait. Donc il laisse la vengeance à Dieu. Il sent qu'il n'a pas le pouvoir ni les possibilités politiques pour réagir envers Joab. Mais c'est un verset qui fait réfléchir. Nous, on se dit, il est roi, il pourrait effectivement, mais il sentait bien que ce n'était pas possible. Donc il a préféré agir en face du peuple en montrant son cœur, en montrant par son comportement qu'il était innocent, mais il n'a pas pris de décision envers Joab. Et on va voir que Joab va recommencer. À l'avenir, on s'aperçoit qu'il va retuer quelqu'un, un autre chef militaire qui lui fait concurrence. Et ça, effectivement, il n'a pas été corrigé, du coup il va recommencer. Et David, malheureusement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était un problème, mais à la fin de sa vie, il va dire à son fils Salomon, écoute, tu puniras Joab. Et Salomon va faire tuer Joab, un peu tard. Et c'est un peu triste cette histoire. David aurait-il dû intervenir tout de suite? On n'a pas la réponse, mais on comprend pourquoi il a agi comme ça. David n'était pas parfait, même si c'est l'image de Jésus à bien des égards. On sent qu'il n'a pas toujours pris les décisions les meilleures. Mais dans ce cas précis, je crois que c'était de la sagesse. Et quand il dit « les fils de Tseruya sont trop durs pour moi », je pense qu'il fait allusion à leur popularité, à leur force militaire. Et on peut comprendre. Alors maintenant, on peut résumer un petit peu, parce qu'on va trouver ces deux chefs militaires face à face, Abner et Joab. Et on peut voir un petit peu quelles étaient les failles que le diable a exploitées chez l'un comme chez l'autre. On a dit dimanche dernier que le diable va chercher toujours à exploiter nos failles. Et c'est important de faire un petit résumé sur ces deux personnages. Donc Abner, c'est quelqu'un qui a toujours cherché à éviter la guerre avec Juda, mais il n'a pas pu. Il a trouvé des solutions logiques, raisonnables, hein, le fait d'avoir des champions, etc., de faire une joute, une solution raisonnable pour minimiser les dégâts. Mais le résultat, ça a été 24 morts, des héros de guerre. Il a été vaincu dans la bataille qui suit et il va chercher à raisonner Joab pour faire cesser le combat. Il avait le souci de l'unité des frères. Il commençait vraiment à réfléchir. Et puis, il va se fâcher probablement volontairement avec son roi. Il l'avait mis en place par loyauté, mais il va se fâcher, soit volontairement, soit par vexation. Il décide de quitter Ish-Bosheth, donc son roi, et de faire alliance avec David, ce qu'il aurait dû faire dès la mort de Saül. Ça lui aurait évité bien des ennuis, parce qu'il n'aurait pas eu à tuer Hazaël, et il n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Donc, voilà, c'est un grand homme de guerre, c'est un grand héros de guerre, et il a, je trouve ce qu'il a de très bien, c'est qu'il réfléchit, et il essaie d'éviter, mais malheureusement, il ne va pas jusqu'au bout, et il attend beaucoup trop longtemps pour prendre la bonne décision, c'est-à-dire suivre David. Alors, quelles étaient les failles que l'ennemi a exploitées chez Abner pour faire foirer les plans de Dieu, pour faire foirer la royauté de David? Eh bien, d'abord, il va exploiter évidemment sa loyauté à Saül, qui est plus forte que sa loyauté à Dieu, puisqu'on s'aperçoit dans le texte qu'il respectait, il connaissait les promesses de Dieu, mais ne les respectait pas. Et puis, c'est son raisonnement aussi qui va faire problème, sa logique, ses solutions humaines, sa pensée. Au lieu de rechercher la solution de Dieu qui était tout de suite de se rendre à David et de marcher avec lui comme il l'a fait plus tard. En fait, sa grosse faille, ça a été de choisir trop tard de s'aligner sur les plans de Dieu. Et je pense que c'est important pour nous aussi. Dieu est patient, la Bible décrit Dieu comme un Dieu patient. Mais il ne faut peut-être pas abuser de sa patience. Et surtout ne pas faire comme Abner qui a attendu trop longtemps pour obéir à ce que Dieu avait dit. Et ça lui a malheureusement coûté la vie, et la vie de beaucoup d'autres. Pour Joab, maintenant, alors c'est un excellent homme de guerre, général, puissant, c'est un héros qui ramène beaucoup de butins, donc il est forcément beaucoup aimé. Neveu de David, il va le soutenir tout au long de sa carrière, fortement, sauf beaucoup plus tard, mais pour l'instant, il est vraiment dans le soutien. C'est un homme extrêmement compétent et très sûr de lui. Mais ses failles... C'est avant tout un homme de guerre. Il ne voit que la guerre et la vengeance. Il veut rester aussi l'homme numéro un de David. On va le voir plus tard. Il va tuer son opposant, il va tuer son concurrent. Il est ambitieux. Il a une jalousie meurtrière envers ses concurrents. On va le voir donc plus tard. Il a beaucoup de dureté. C'est David qui s'en rend compte quand il dit « ils sont trop durs pour moi ». Beaucoup de dureté. Dureté de cœur qui l'empêche de voir la repentance d'Abner. Il est complètement branché guerre. Donc sa dureté de cœur ne fait que empirer au fil des années. Il se limite au présent. Il ne voit pas l'avenir. Il n'a pas une vue plus générale du peuple. Et à cause de tout ça, il a failli faire capoter l'alliance avec les autres tribus. Il ne pense pas au bien commun. Il voit son rôle auprès de son roi, dans sa tribu, et il n'élargit pas l'espace autour de lui. Il ne voit que ce qui est immédiat. Et un autre défaut, une autre faille qui va être bien bien exploitée, c'est qu'il ignore l'autorité du roi quand elle est en contradiction avec son désir de vengeance. Eh bien, on n'informe pas David et on fait ce qu'on veut. Et ça va être une caractéristique de Joab, pratiquement dans toute son histoire, il est incontrôlable. C'est dommage. Un héros de guerre, puissant, formidable, qui protège vraiment son pays, mais incontrôlable. Il fait ce qu'il veut quand il veut et il ne tient pas compte de l'autorité du roi. Bon, c'est son tonton, il y a peut-être un côté familial, mais quand même. Le fait est que Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël. Depuis le début, depuis que David a reçu l'onction royale, Dieu, on sent qu'il avait un plan et il le dit. Il a établi son peuple dans le pays de la promesse, pays de Canaan, à la sortie d'Égypte, après les 40 ans dans le désert, le peuple a pu prendre possession du pays. Il avait comme plan une vie de foi et d'unité entre les tribus, même les Lévites, c'était une tribu qui était distribuée sur l'ensemble du pays, pour créer un lien aussi avec la foi. Et puis, Dieu est fidèle à son alliance entre lui et tous les descendants d'Abraham. Il avait un plan pour le peuple et pour lui donner un roi qui annoncerait Jésus par beaucoup de traits de son caractère et de son comportement, pas tout, hélas, mais beaucoup de traits de son comportement puisque Jésus va être appelé fils de David à cause de ce cœur de pardon dont on a parlé tout à l'heure. Un roi qui unifierait les tribus, repousserait les ennemis. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais le problème, c'est que le diable aussi avait un plan pour Israël. Et c'était pas du tout le même. Le plan, on va le voir, et on va peut-être terminer par cette histoire, c'était de faire désobéir Israël pour qu'il ne soit plus sous la bénédiction de Dieu. Alors, à ce sujet, on va peut-être voir un petit peu l'histoire de Balak et Balaam. Parce que Balak, on trouve cette histoire dans Nombre 22, Balak, roi de Moab, avait envoyé, c'était au temps où les Hébreux n'étaient pas encore entrés en Canaan, il envoie les anciens de Moab vers Balaam. Balaam était un devin, un prophète, qui reconnaissait l'Éternel, mais peut-être parmi d'autres dieux, on n'est pas très sûr. Et semblait servir l'Éternel Dieu d'Israël, puisqu'à un moment il dit l'Éternel Dieu, on ne sait pas très bien, apparemment ça ne veut pas dire mon Dieu. Est-ce que c'était un Dieu parmi d'autres? On n'est pas très sûr, mais c'était un devin. Et les anciens du roi de Moab, donc de Balak, promettent à Balaam une grande récompense, toutes sortes de cadeaux, d'or, etc., si seulement il veut bien maudire le peuple d'Israël qui est dans la plaine. Balaam répond que ce n'est pas possible de maudire Israël si Dieu ne lui en donne pas la permission. Évidemment, quand il va consulter Dieu, Dieu refuse. Alors le roi Balak envoie encore des princes cette fois-ci, encore plus de cadeaux. Et Balaam est bien tenté, mais il répond qu'il ne pourra pas désobéir à la parole de Dieu, même si on lui offre or et argent. Alors Balaam va consulter Dieu encore et il insiste tellement auprès de Dieu qu'à la fin, Dieu lui dit « Ok, mais tu ne devras prononcer que des paroles dictées par l'Éternel. » Ah ! Il y a cet épisode ensuite de l'âne de Balaam qu'on connaît bien. Et il arrive avec Balak sur les hauts lieux. Finalement, il y va. Et Balak est content parce qu'il se dit « C'est bien, il va pouvoir me maudire ce peuple. » Mais il avait pris ses précautions en disant « Je ne pourrai dire que ce que Dieu m'autorise à dire. » Et de là où il était, on voyait une partie du camp d'Israël. Et donc Balaam fait des sacrifices, 7 je crois, puis il retourne vers Balak et il lui dit « Écoute, je ne peux pas résister à l'Esprit de Dieu » et il bénit le peuple d'Israël. Évidemment, le roi Balak est furieux, il l'emmène sur un autre sommet, regarde ce peuple, etc., maudit-le, impossible, il est obligé de bénir de nouveau le peuple d'Israël. Et puis enfin, il l'emmène au sommet du Nebo, ça doit être une belle expédition, tous ces gens qui montent sur la montagne. Et puis, là encore, il ne peut pas faire autrement que de bénir ce peuple et de respecter la parole de Dieu. Et c'est là qu'on a cette magnifique prophétie d'une étoile issue de Jacob et d'un sceptre, donc royauté, qui va sortir d'Israël. Royauté de David, qui est certainement prévue là, et surtout de Jésus, qui arrivera quelques centaines d'années plus tard. Balak est absolument furieux, du coup il refuse de récompenser Balaam. Et c'est là qu'on a une histoire très parlante. Balaam est embêté parce qu'il a été fortement grondé par Balak, il a perdu sa récompense, etc. Et il va leur donner une bonne recette. Et c'est là qu'on est mal. On voit le plan du diable pour Israël. Eh bien la recette pour maudire ce peuple, elle est bien simple en fait. C'est d'induire les Israélites à tomber dans l'idolâtrie, dans le culte de Baal, pour qu'ils provoquent eux-mêmes la malédiction de Dieu. On retrouve ça dans Apocalypse 2, verset 14. L'idée, c'est de faire désobéir le peuple pour qu'il sorte du parapluie, qu'il sorte de la bénédiction de Dieu. Le diviser pour qu'il soit plus faible face à ses ennemis, Philistins, Cananéens, Amalécites, etc. Et l'encourager à faire des compromis avec les nations païennes. Et c'est vrai pour nous encore aujourd'hui. On est sous la protection de Dieu. On est sous son aile, comme dit la Bible. Mais comment ? Est-ce qu'on peut nous maudire ? En fait, on ne peut nous maudire que dans la mesure où nous, on va faire des compromis et on va sortir volontairement de la protection de Dieu. Et ça, c'est intéressant, ça peut calmer nos craintes aussi, mais ça nous fait aussi réfléchir à nos failles, comme ces hommes militaires. On voit que c'est leurs failles qui ont créé des problèmes, et c'est ces failles que le diable va essayer d'utiliser. Que ce soit chez les leaders de l'armée d'Israël, que ce soit chez nous, en tant que chrétiens, ce sont nos failles. C'est pour ça qu'il faut veiller sur nos failles. Que va faire l'ennemi ? Eh bien, il va se servir de la loyauté d'Abner envers Saül. Quelque chose de très bon, c'est beau la loyauté. Mais il va se servir de ça parce qu'elle est plus importante que la loyauté à la parole de Dieu. Abner est sorti de la protection de Dieu parce qu'il a fait des compromis. Il a préféré mettre en premier sa loyauté à Saül. L'ennemi va se servir des raisonnements humains d'Abner pour trouver des solutions, mais des solutions catastrophiques, même si elles ont l'air très bien humainement, qui vont finir par provoquer la vengeance de Joab et sa propre mort. L'ennemi va se servir et de sa loyauté et de ses solutions humaines pour retarder son obéissance à Dieu. Et là, on se retrouve dans le cas de Balaam et Balaak. C'est parce qu'il a retardé son obéissance à Dieu et son allégeance à David qu'il va avoir tous ses problèmes et qui finalement il va être tué. L'ennemi va se servir de ce retard pour provoquer son assassinat. L'ennemi se sert de nos failles. Comme le conseiller Balaam à Balaak essaie de les faire tomber dans l'idolâtrie. Et alors c'était simple à l'époque, hein, on faisait des fêtes énormes et les enfants d'Israël venaient boire et manger avec les païens et ça se terminait par le culte à Baal évidemment et on faisait des compromis. L'ennemi va se servir aussi des failles de Joab. Eh oui, Joab, puissant, d'accord, excellent homme militaire, héros militaire, mais incontrôlable. Et quand on est incontrôlable, on a du souci à se faire. Parce que très vite, on peut être entraîné à faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on en a envie, au lieu d'écouter Dieu. C'est un guerrier dans l'âme, mais il est quand même capable de traîtrise pour se venger. Ça, c'est une faille. Et on va le voir au cours de sa vie, deux ou trois fois. Il a une sensibilité à la traîtrise qui est un peu ennuyeuse. Son cœur dur l'empêche d'écouter David et de comprendre le revirement d'Abner ou le cœur même de David. Son cœur s'est endurci au fil des années, certainement, c'est pas trop étonnant pour un soldat, mais il va être incapable d'écouter David, incapable de comprendre qu'on puisse se repentir, incapable de sentir le cœur de David. Ça, c'était une grosse faille chez Joab, et ça aussi, ça va amener sa mort à la fin du compte. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Le diable ne peut pas nous maudire comme ça gratuitement. Nos failles donnent accès au diable. Qu'est-ce qu'il veut, le diable ? Nous détruire, retarder le plan de Dieu dans nos vies, nous priver des bénédictions que Dieu nous a promis, nous faire échouer là où Dieu, lui, voulait nous faire réussir. Et malheureusement, l'exemple qui fait le plus mal au cœur dans cette histoire, c'est Jonathan. Sa loyauté envers son père et sa famille, envers quelqu'un que Dieu avait rejeté, va mener à sa mort. Il va mourir à côté de son père à la bataille, alors que sa place, prophétiquement, était à côté de David. David lui avait promis, et je suis sûre qu'il aurait tenu promesse, d'être à côté de lui, en quelque sorte son premier ministre. Jonathan, sa loyauté l'a perdue parce qu'elle n'était pas respectueuse de ce que Dieu avait dit. Abner, aussi, il a le même problème que Jonathan, extrêmement loyal, mais lui, il est partagé et il a tendance à faire passer sa raison avant la parole de Dieu. Il cherche des compromis et tout ça, ça va retarder. Alors le pire avec Abner, Jonathan, bon, il est resté loyal jusqu'au bout et bon, voilà, il est mort avec son père. Abner, il a failli réussir, c'est simplement il a trop tardé. Il a trop tardé. Et la mort d'Azaël a signé son propre arrêt de mort. Donc faisons attention aux compromis qui peuvent être faits par loyauté avec les amis, les collègues, la famille, les copains d'école, etc. Attention, il y a des loyautés qui peuvent nous créer bien des ennuis. On ne peut pas servir de maître. Le compromis, c'est génial sur le coup, ça semble tout résoudre. Mais l'ennemi va tirer la ficelle qu'on lui laisse pour mieux détruire le plan de Dieu dans nos vies. C'est la recette de Balaam. Entraîne-les à servir d'autres dieux. Entraîne-les, fais des fêtes et tu verras, ils vont se laisser faire, ils vont finir par adorer Baal. Et les compromis, ça semble génial parce que ça donne tout de suite la paix, mais ça peut détruire le plan de Dieu dans nos vies. Le plan de Dieu pour David était clair dans cette histoire. David retourne à Hébron, il est reconnu roi. Après des mois d'opposition, Abner reconnaît la parole de Dieu sur David, décide de le suivre, de rallier à lui les autres tribus. Vous voyez, les plans se déroulent formidablement bien. L'alliance est prononcée, David deviendra sous peu la figure de Christ, le roi berger de l'ensemble d'Israël. Mais voilà, entre-temps, il y a le plan de l'ennemi qui va empêcher, tout faire pour empêcher la réalisation de cette alliance. Il va réveiller et l'ambition et la jalousie et la vengeance dans le cœur de Joab. Et ça, c'était dans le cœur de Joab déjà. Ambition, jalousie, vengeance. Et pourtant, c'était le meilleur général d'armée dont disposait David. Mais David ne va même pas être assez puissant pour lui faire justice. c'est le bon moment pour le déconsidérer aux yeux de tous. Là, avant l'enterrement d'Abner, on était au bord de la faillite du royaume de David. Tout le plan de Dieu avait l'air fichu. Alors David n'est peut-être pas assez puissant, mais c'est un homme sincère qui cherche à obéir à Dieu. Il refuse la traîtrise et la ruse pour obtenir la royauté sur Israël. Il a apprécié le courage d'Abner qui a accepté de s'humilier, de se soumettre à sa royauté. Et il exprime très bien son dégoût pour la traîtrise, son deuil pour un homme qui a eu le courage de faire demi-tour. Ses pleurs sont sincères, il est écœuré et il met ainsi à l'abri son règne et le plan de Dieu pour Israël. Et grâce à son attitude et à son comportement le jour de l'enterrement d'Abner, on va voir dans les textes qui suivent qu'il va réparer l'erreur de Joab et il va pouvoir bientôt concrétiser l'alliance avec le reste d'Israël. Mais il a fallu de sa part beaucoup d'humilité, beaucoup de vérité, d'ouvrir son cœur, avoir un comportement qui plaise à Dieu et qui plaise au peuple, mais un comportement sincère. Le peuple aurait vite vu s'il avait joué la comédie, parce que ça va sur une heure, mais sur plusieurs jours, ça serait très compliqué. Et grâce à Dieu, David va récupérer les choses, parce qu'il s'est confié en Dieu, parce qu'il a reconnu qu'il était faible, parce qu'il a reconnu qu'il avait besoin de Dieu. Et c'est encourageant de voir que le plan de Dieu était au bord de la faillite, et c'est grâce à son comportement que David va tout récupérer et qu'il va être bientôt, on va le voir dans les prochaines études bibliques, il va être nommé roi par tout Israël. Et c'est important, pensons à notre comportement, à nos attitudes. Même quand on est emmené dans une histoire injuste, notre comportement va changer les choses. Si on reste soumis à Dieu, si on reste proche de lui, si on est sincère et qu'on s'appuie sur le Seigneur, Dieu répare les situations les plus catastrophiques, parce que je pense que c'était une situation extrêmement catastrophique. On était au bord d'une guerre civile, ça aurait pu être terrible et remettre tout le règne de David en question. Mais en fait, c'est uniquement par ce comportement loyal, sérieux, soumis à Dieu, que David a pu récupérer la situation. Et je crois que ça nous donne beaucoup d'espoir. Quelles que soient les actions de l'ennemi, quelle que soit la façon dont il va essayer d'exploiter les failles des uns et des autres, Dieu a une solution. Et là où on croit que tout est perdu, Dieu a toujours quelque chose. Et c'est formidable, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Là où on a cru que tout était perdu, il était dans le tombeau, c'était fini, la pierre avait été roulée, des soldats gardaient le tombeau. Et c'est là que tout a été gagné et que Jésus est ressuscité. Donc, c'est vrai dans toutes nos situations. Dieu a toujours le dernier mot. Et faisons-lui confiance. Même dans ces situations qu'on vit en ce moment, faisons-lui confiance. Et prions. Attendons-nous à lui. Il écoute nos prières. Amen. Alors, à la suite de cette étude, on va pouvoir vous envoyer une sorte de questionnaire, ou tout au moins ce sont des pistes de réflexion. On ne peut pas les travailler en cellule de maison, puisque en ce moment on ne peut pas se réunir, mais vous pourrez les travailler chez vous, pourquoi pas en famille. Des questions, les enfants peuvent y travailler aussi, c'est une histoire quand même un peu rocambolesque, ils peuvent trouver aussi un intérêt dans cette histoire, et vous pouvez travailler avec les enfants. Je vais poser des questions aussi. Je mettrai à part les questions pour les enfants pour que vous puissiez éventuellement les faire avec vos enfants. Ça s'est fait dans le passé. On peut le refaire cette année pour travailler un petit peu ce texte et poser des questions aux enfants pour voir s'ils ont bien compris et qu'est-ce qu'ils en retirent eux-mêmes. Donc voilà, on va vous envoyer ce texte ce soir par mail.
J'aurais revenir un instant sur le mont Nebo. Nebo, à l'époque de David, c'était le dieu de la sagesse. De la même manière qu'aujourd'hui, chez nous en France, c'est la déesse raison à laquelle la France a été consacrée, qui est Minerve, qui est au-dessus de l'Assemblée nationale actuellement. Eh bien, ce dieu de la sagesse, eh bien, il a été détruit à l'époque par cette action de Dieu. dans la bouche de Balaam, qui n'a pas pu maudire le peuple d'Israël. Et de la même manière, ce Dieu de la sagesse qui fait défaut maintenant à notre pays, qui n'a plus qu'une solution, c'est le confinement, etc. On se croirait un peu au Moyen-Âge, on n'a pas de solution vraiment à l'heure de cette technique qu'on élève, ou de ce progrès qu'on veut élever sur l'Occident. Eh bien, nous n'avons que le recours à Dieu. Et c'est pourquoi, dans notre Église, nous voulons prier maintenant aussi pour cette situation. J'aurais juste vous inviter aussi à méditer le psaume 78, qui nous donne aussi des pistes sur la situation que nous vivons actuellement. Et je voudrais lire les derniers versets de ce psaume pour nous aider à comprendre comment nous pouvons prier aussi. Au verset 68, il est écrit « Il a élu la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Il a bâti son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondé pour toujours. Il a élu David, son serviteur. Il l'a tiré des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les a fait paître avec un cœur intègre, un cœur droit, un cœur entier, et il les a conduits avec des mains habiles. » C'est-à-dire avec la sagesse. Eh bien, David est un type de Jésus, et aujourd'hui, nous avons un roi, un Christ, celui qui est oint par Dieu, notre berger, qui veut nous conduire. Et soyons comme David, qui avait, malgré ses défauts, ce cœur intègre, entier, et lorsqu'il a péché, il s'est humilié et s'est repenti devant Dieu. Et nous voulons ainsi aussi nous humilier pour cette situation et demander à Dieu sa grâce. Nous voulons prier pour cette situation que nous vivons aujourd'hui, qui non seulement touche notre nation, mais le monde entier est touché par cette pandémie. Et à cette occasion, nous constatons que nous sommes solidaires dans une même destinée. Vous voyez, notre individualisme forcené, eh bien, va pas nous aider, parce que cette solidarité fait que, eh bien, ce mal touche toute la planète. Nous nous sentons solidaires, mais nous voulons être solidaires aussi de nos contemporains qui sont voilés. Et nous voulons prier pour eux, nous voulons prier pour le gouvernement, nous voulons prier pour que, eh bien, dans cette situation, Dieu parle. Et plusieurs vont prier parmi ceux qui sont là ce matin pour que nous puissions ensemble élever nos prières vers Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont atteints par le virus, afin que tu leur accordes ta grâce, que tu les délivres, que tu les guérisses, mais que tu parles à leur cœur, afin qu'ils se tournent vers toi. Nous te prions pour nos gouvernants, afin qu'ils prennent les décisions qui sont des décisions, Seigneur, de protection, de sagesse, décisions, Seigneur, qui puissent aussi être suivies par nos concitoyens, afin que notre pays soit aussi gardé dans ta main. Que tu parles au cœur des Français à cette occasion, afin qu'ils se détournent des choses matérielles dont ils ne peuvent plus profiter maintenant, et qu'ils se tournent vers des choses spirituelles, du sens qui leur manque et qu'ils peuvent trouver en toi. Seigneur, te prions pour le personnel hospitalier, infirmier, médecin, afin qu'ils puissent aussi être soutenus, qu'ils ne soient pas infectés par ce mal, mais qu'ils puissent venir en aide, Seigneur, autour d'eux. Et ainsi que pour les équipes de secours, les pompiers, le SAMU, tous ceux qui sont mobilisés, Seigneur, pour venir au secours dans cette situation. Seigneur, nous voulons nous joindre à ce mouvement national de prière, qu'une nouvelle solidarité nationale se développe. Seigneur, que ce soit une occasion pour que les gens puissent se soutenir les uns les autres dans cette difficulté. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. D'autres personnes vont prier et je leur laisse le micro.
Oui, dans ces moments où il est demandé à ce que les parents puissent rester à la maison et ont l'occasion de rester à la maison parce que les enfants sont aussi confinés à la maison, c'est des moments où, Seigneur, nous te prions que les familles puissent se retrouver, que ce soit l'occasion pour les parents de découvrir, redécouvrir leurs enfants et de passer du temps, et que vraiment tu puisses bénir ces instants, que ce soit une occasion de rapprocher les familles et que ton esprit puisse vraiment amener des reconstructions et vraiment des bénédictions qui ressortent de cela, Seigneur, et que tous ces parents, Seigneur, qui puissent passer du temps à faire l'école à la maison, à aider, à encourager, à fortifier leurs enfants, que vraiment tu puisses avoir un rapprochement pour les familles aussi, et que tu puisses tourner ce mal en bien, et que vraiment ta bénédiction puisse maintenant toucher toutes les familles françaises, Seigneur, et que tu puisses aussi également permettre que les entreprises et puissent vraiment donner l'occasion à tous ces parents de pouvoir dégager du temps, et que les gens ne soient pas stressés, mais que tu puisses donner ta paix, Seigneur, dans ces instants. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, dans des circonstances actuelles où nous sommes comme terrassés, terrorisés, apeurés, diminués, Seigneur, face à ce virus, nous voulons encore, Père, tourner le regard vers toi, parce que ce n'est que de toi que vient notre secours, notre salut. Seigneur, hier, le Premier ministre parlait de la fermeture de tout lieu, Seigneur, qui n'est pas vital pour le fonctionnement du pays. Seigneur, il faisait bien la distinction. Un lieu vital et un lieu qui n'est pas vital. Et il citait ces lieux, Seigneur. Et nous voulons juste prendre acte et reconnaître, Seigneur, que combien nous ne sommes parfois chargés des choses, Seigneur, qui nous détournent de toi. Combien, Seigneur, nous nous sommes parfois orientés vers des chemins qui étaient loin de tes chemins. Nous prions tout simplement, Seigneur, que tout ce qui se passe maintenant, que chacun ouvre les yeux. Que chacun ouvre les yeux, Seigneur, pour se détacher de toutes ces choses-là. Que chacun ouvre les yeux pour reconnaître, Seigneur, sa faiblesse. Pour reconnaître, Seigneur, que oui, parfois on a fonctionné loin de l'essentiel. À l'heure où maintenant on veut axer les choses sur l'essentiel. Mais nous savons que toi tu es l'essentiel, Jésus. Nous savons que toi tu es la vie. Nous savons que toi tu es le chemin. Nous prions, Seigneur, que cette calamité ne passe point, Seigneur, tout simplement comme elle est arrivée, mais que cela soit source d'enseignement, que cela soit source, Seigneur, de prise de conscience, que cela soit aussi inspiration pour ceux-là encore, Seigneur, qui sont loin et très loin encore, Seigneur, de t'accepter dans la vie. Père, merci d'agir avec puissance, avec autorité. Nous invoquons ton nom, Seigneur, sur ce pays. Nous aimons ce pays, Seigneur, mais nous élargissons les frontières pour prier pour l'Europe et pour tous les continents, pour tous ces pays, Seigneur, qui sont affectés. Père, que ta grâce se manifeste. Libère, Seigneur, ta puissance et fais voir encore que ce n'est que de toi que vient la guérison, le salut et la vie, Jésus. Merci d'agir. Nous te donnons toute la gloire. Parce que, Seigneur, tu fais descendre la puissance de ton royaume au milieu de nous. Nous te célébrons et nous nous humilions, Seigneur, devant ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.
Merci, Seigneur, de nous rappeler à la suite de cette catastrophe que notre individualisme ne vaut pas grand-chose face à une pandémie comme celle-ci. Merci de nous rappeler que nous ne pouvons pas dire « c'est ma vie, je fais ce que je veux, j'en ai rien à faire des autres ». Nous sommes tous finalement dépendants les uns des autres, tous affectés par ce que font les autres. Merci de nous rappeler, Seigneur, que les humains sont liés entre eux, qu'ils le veuillent ou non, et qu'ils le sont dans la difficulté, ils le sont dans les moments de joie aussi, ils le sont quand tout va bien, ils le sont quand on est face à des dangers. Que, Seigneur, tu puisses, à la faveur de cette catastrophe, renforcer la notion de bien commun, la notion de vivre ensemble. Que, Seigneur, ça puisse ouvrir les yeux à nous tous, ça puisse nous ouvrir les yeux sur les interactions indispensables entre les humains, et qu'on puisse être les uns pour les autres en bénédiction les uns pour les autres. Seigneur, veuille effectivement bénir tous les services d'aide, quels qu'ils soient. Et je pense aussi à toutes ces infirmières, tous ces médecins qui sont épuisés. Je te prie vraiment de renouveler leurs forces et de les bénir dans ce travail qu'ils font. Quelquefois, en allant même un peu au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Viens à leur secours, Seigneur, et soutiens-les. Et que cette catastrophe puisse créer dans notre pays un meilleur sens de l'interdépendance, du vivre ensemble. Afin que, Seigneur, cet individualisme forcené qu'on a connu tous ces derniers temps puisse disparaître, tout au moins diminuer. Afin que le concept que tu développes dans les évangiles, les uns les autres, puisse être davantage présent dans nos vies, et dans nos vies de chrétiens aussi. Qu'on se rappelle que tu nous exhortes toujours à être les uns avec les autres. Merci Seigneur de bénir tous nos frères et sœurs qui sont à l'écoute ce matin, qu'ils soient encouragés et fortifiés malgré les difficultés. Amen.
J'aimerais terminer ce culte aussi en pensant aux bien-aimés qui sont partis auprès du Seigneur. Certains, en tout cas le pasteur Jean-Marc Taubois, qui a été frappé par le coronavirus, qui est parti dans la paix. Nous voulons prier pour tous ces bien-aimés, toute cette famille qui est en deuil, et pour le peuple de Dieu aussi, qui perd un ministère qui a vraiment marqué notre génération. Seigneur, nous te prions pour toute cette famille qui est endeuillée, cette grande famille Taubois, et aussi pour nous qui avons perdu un frère qui a été utilisé, Seigneur, pour nous enseigner, Seigneur, sur ce que tu fais au travers du peuple d'Israël en particulier. Nous te demandons, Seigneur, de consoler toute cette famille, et que ces enseignements puissent continuer à édifier ton peuple, Seigneur, alors que lui est parti, que nous soyons encouragés. Bénis aussi son épouse et, Seigneur, sa fille et toute cette famille, Seigneur. Nous te la remettons au nom de Jésus, nous te prions. Le pasteur Théophile Aman aussi, que nous avons connu, qui est parti, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais nous voulons aussi remettre cette famille et aussi les difficultés pour... Seigneur, cette cérémonie d'enterrement, nous te prions, Père, pour toute cette famille, Aman, plusieurs nous connaissons bien, nous te les remettons afin que tu les bénisses et que tu les consoles aussi, ce départ, que tu bénisses son épouse, ses enfants, Seigneur, et cette église aussi dont il était responsable. Nous te remettons, Seigneur, toute cette famille, dans le nom de Jésus, que tu les renouvelles et que tu leur accordes ta grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pensons aussi à tous les anniversaires que nous ne pouvons pas fêter, mais nous pensons à vous qui avez vos anniversaires au mois de mars, il y en a beaucoup, et bien que le Seigneur vous bénisse pendant ce temps aussi de repos, de pause, que vous puissiez le faire en tout cas en famille, si nous ne pouvons pas le faire dans la famille spirituelle que nous représentons. Voilà, je vais terminer ce culte par la bénédiction pour que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine qui vient et que vous puissiez toujours regarder à lui et vous attendre à lui. Que l'Éternel lui-même vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que l'Éternel vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Juste un dernier mot avec Olivier, on va réfléchir à la possibilité de faire du, ce qu'on appelle du streaming, que si cette situation était amenée à durer, nous puissions transmettre ce culte au travers de vidéos que vous pourrez visionner à partir de votre ordinateur. En tout cas, on va chercher à le faire. Ça permettra aussi de vous apporter des enseignements, par ailleurs, lorsque bien cette crise sera terminée. Nous aurons aussi un outil nouveau pour mettre à votre disposition pour la formation. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.